Je suis au cinéma d'Escala, aux Eaux Vives, à Genève, avec Frédéric Gonzette qui vient d'arriver. Bonsoir.
Bonsoir.
Et qui est là pour l'avant-première qui a lieu d'ici, on va dire, trois quarts d'heure, de Yvette Scraggen, une femme au volant de sa vie. Alors déjà, le titre, il est judicieux, puis ça résume le côté avant-gardiste de cette personnalité, écrivaine, une femme qui était à l'avance sur son époque. Comment vous est venue l'envie de traiter Yvette Scraggen et puis surtout sa biographie qui est riche et multiple.
J'ai envie de la traiter parce que j'ai fait sa connaissance. On était amis. Je l'ai rencontrée à deux pas d'ici, au San Remo, dans la même rue. Et ça, c'était en 1989. C'est un certain bout de temps, quoi. Mais j'étais intéressé beaucoup parce qu'elle avait travaillé, elle avait livré sa propre vision très originale des choses d'une jeune femme genevoise pendant la guerre. Qu'est-ce qu'elle pouvait savoir de ce qui se passait dans les camps nazis? Et elle avait reconnu avec beaucoup d'honnêteté qu'elle n'avait rien vu passer, quoi. Et puis elle s'est dit, mais ça vient de quoi? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu? Alors qu'il y avait, ou bien est-ce qu'il n'y avait pas dans les journaux, il y avait la censure totale ou comme ça. Alors elle était faire toute l'enquête dans les bibliothèques, elle a retrouvé les vieux journaux, elle a vu qu'il y avait des choses, que c'est elle qui n'avait pas retenu ou pas fait attention. Mais en même temps, il y avait des choses et c'était pas un traitement complet. Donc il y avait des indices, quoi.
Et puis il y avait des sortes de prémices quand elle était en vacances au Tessin. Il y avait des choses qui transparaissaient par rapport aux femmes juives qui passaient la frontière et qui venaient se réfugier en Suisse, les femmes juives d'Italie. Et elle disait en même temps que, clairement, il n'y avait pas eu la lunette de lecture à l'époque.
Non, il n'y avait pas ce sentiment qu'il fallait être solidaire avec les réfugiés juifs en particulier. Oui. Dans son milieu, dans le milieu populaire, il n'y avait pas du tout de solidarité comme il y a maintenant, on peut dire, des mouvements. Non, et donc, elle reconnaît ça avec beaucoup de lucidité, d'honnêteté. Donc, c'est touchant aussi. Puis elle ne joue pas, elle ne triche pas, quoi.
Et Frédéric Gonzette, c'est un projet de longue date. Vous avez commencé 10 ans avant sa disparition, de recueillir à la fois des archives, des photos, de recueillir aussi ses souvenirs. C'est vraiment de longue haleine.
Pas tout à fait. Si je dois être honnête, pour être à son niveau, je dirais qu'on a décidé 10 ans avant sa disparition. On ne savait pas que c'était 10 ans. Mais on a décidé de faire un récit de vie, puis de commencer un film ensemble. Et puis on a filmé le récit de vie, mais on n'a pas pu faire le film. Elle était trop handicapée physiquement. Et puis ce projet s'est reporté. C'est une fois qu'elle a disparu qu'on s'est dit non, mais on peut pas laisser ça dormir. Il faut absolument. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir. Si à l'époque j'avais su qu'il y avait autant d'images, peut-être que ça m'aurait encore plus stimulé. On a découvert tout le fonds qui est détenu par sa fille, Nathalie Brunel. Ce fonds est très riche de photos, très intéressant.
Voilà, et donc, on ne va pas tout dévoiler du film, mais vous ponctuez les images et les témoignages. Vous mentionnez sa fille, son petit-fils aussi, Laurence Deonna. Ce choix d'alterner à la fois la lecture de ses ouvrages sur les images, d'alterner avec les témoignages, mais aussi des images de reconstitution, ça vous est venu quand?
Il y avait besoin d'un rythme, parce que vous savez, quand on raconte la vie de quelqu'un, et c'est quelqu'un qui vous dit « après j'ai fait ci, j'ai fait ça », que nous, comme spectateurs, on ne vit pas ces moments, on voit quelqu'un qui raconte. Mmh. C'est pas aussi passionnant. Donc il y a, de la part d'une écrivaine qui a si bien raconté sa propre vie, je me disais, mais si on veut vraiment être communiquer à des gens même qui l'ont pas lu le type de sensation qu'elle nous fait éprouver à la lecture, au cinéma il faut faire de la fiction, il n'y a pas 36 solutions. Alors c'est une fiction très simple, très, très élémentaire, très sobre, avec la voix off du texte écrit par Scraggen qui raconte ce qu'on voit. Et puis voilà, ça fonctionne comme ça, c'est un petit jeu là-dessus.
Et puis on sent qu'il y a des histoires de déchirement quand même dans sa vie. Déjà, ne serait-ce que par ses parents, puisque le père a quitté la Suisse centrale pour émigrer à Genève. Il n'était pas forcément bien intégré. Et puis, du côté maternel, des ancêtres d'origine hongroise. Donc, il y a aussi, disons, déjà l'habitude de devoir s'intégrer, de s'intéresser à autrui, à l'altérité, pour pouvoir quitter son port d'attache.
C'est une jeune voix qui réfléchit sur ses origines, effectivement, et puis plutôt tardivement, après la disparition de son père, commence à s'intéresser vraiment à ses ancêtres. Et plus elle vieillissait elle-même, plus elle s'est intéressée à remonter haut dans l'arbre généalogique. Et puis c'est passionnant parce que l'histoire de la Suisse, au fond, on n'est pas tous issus du même coin. Il y a eu des migrations internes avant d'avoir les grandes migrations de notre époque. Il y avait des petites migrations internes. Puis il y a aussi des Suisses qui s'exilaient. Mmh. Elle a aussi vécu une autre sorte de vie qu'on a de la peine à se représenter. C'est que pendant toute sa jeunesse, elle était enfermée en Suisse, comme tous les Suisses, qui ne pouvaient pas sortir. Et puis, ce qui était à moins un petit mal par rapport à toutes les souffrances qu'il y a eu, bien sûr. Enfin, c'était quand même un enfermement. Et puis, elle est sortie tout d'un coup à la libération. Mais elle n'est pas sortie en voyageuse, en touriste. Ça n'existait pas, de toute façon, très peu. En tout cas, à son âge, elle n'avait pas les moyens et tout. Elle est partie comme déléguée, mais enfin, pour un travail humanitaire. Et ça a été un choc parce que, entre la Suisse qui avait vécu la guerre de manière
préservée,
et puis l'Europe détruite qu'elle a découverte en Italie, en Allemagne et en Tchécoslovaquie, ça a été très, très, très violent. Et ça, ouais, ça a marqué toute son œuvre.
D'autant plus qu'il y a un fil conducteur dans votre film, c'est à la fois son penchant pour la jante masculine et puis pour les belles voitures. Et puis elle a quand même eu un amant, un jeune soldat allemand, qui lui faisait voir l'autre facette de la médaille, qu'ils n'étaient pas tous convaincus de partir sur le front.
Je ne sais pas s'ils étaient amants, mais ils se sont connus très jeunes. Hein.
Ouais, c'est pas sûr. Ah, je tire des conclusions.
Ça peut être, mais oui, c'était des flirts. C'est pas un mot qu'on utilisait à l'époque, d'ailleurs. Elle n'a pas précisé.
Ils se courtisaient.
Elle dit d'une autre façon, j'ai été dépucelée plus tard, en 1940, donc on en déduit que...
Mais donc, c'est vrai que il lui a ouvert un aspect de la guerre côté allemand qu'elle n'avait pas soupçonné.
Voilà, elle a ce point de vue assez original de se dire, ouais, mais la souffrance, c'est pas seulement les bons. Il y a aussi de la souffrance du côté, entre guillemets, des méchants. Et puis, il y a des gens innocents chez les méchants, qu'on croit être des méchants. Cette déconstruction, elle l'a fait. C'est très utile, c'est très important. Parce qu'après, à partir des années 80, 70, 80, ça a commencé à devenir en Allemagne aussi un thème.
Après, il y a eu le rapport Berger en Suisse.
Et voilà. Ouais. Alors, en Suisse aussi, il a commencé la question de la responsabilité
et du rôle de la Suisse.
Tout à l'heure.
Et puis, parce qu'il y a quand même plusieurs décennies, dont je fais partie, décennies de collégiens qui apprenaient l'histoire suisse grâce à la trilogie, les trois volumes de Chevala. Puis en fait, c'est mirobolant ce qu'il écrit. C'est très court déjà, et on ne soupçonnerait pas ce qu'il y a eu comme enjeu, ce qu'il y a eu comme arrangement.
Oui, exactement. Ça, on a découvert aussi. Moi, j'ai été très sensibilisé à ce que Skragen a fait, parce que moi-même, j'ai fait un travail historique de cinéaste et d'historien par rapport à la mémoire des Suisses pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été une grande exposition interactive qui a fait le tour de la Suisse, qui s'appelait « L'histoire, c'est moi ».
Et puis d'investigation, parce que vous avez aussi une formation de journaliste. Donc on imagine que vous avez travaillé sur peut-être des archives qui vous étaient accessibles à travers le journalisme.
Même, on pourrait dire, comme historien, parce que j'ai vraiment travaillé énormément sur les missions suisses sur le front de l'Est dans un film qui s'appelle Mission en Enfer. Et puis alors j'ai fait carrément des découvertes, des scoops historiques, quand j'ai découvert qu'il y avait des déportés de l'Est, des Ukrainiens, des Russes, qui avaient travaillé
dans les camps,
dans les usines suisses qu'il y avait en Allemagne. Ça, les choses qui n'étaient pas du tout connues.
Il y a aussi des camps de travaux forcés en Suisse, pour ceux qui arrivaient de l'Est.
Ils n'étaient pas des camps de travaux forcés, c'était des camps de regroupement, des camps de concentration, si on veut, mais pas avec un inconfort comme en Allemagne. Ils n'étaient pas forcés de travailler, ça, non. Il y a eu quelques cas en Valais.
C'est ça dont je...
Ouais. Je parle. Quelques cas, puis il y a des révoltes.
À titre personnel, j'avais un grand-père qui était dans un camp.
Alors, il s'est révolté, il a fait partie à Rarol.
Il a fui, puis il a fui après vers la France.
D'accord.
Je ne sais pas si c'était un bon choix, mais voilà. Et là, il devait travailler et dans des conditions difficiles.
Il y a certains, un peu Victor Hugo, dans les champs ou dans certaines mines d'asphalte.
Voilà.
Mais c'est une petite minorité. La plupart, ça a été plus ou moins correct. Ouais, il y a eu des scandales quand même.
Voilà. Mais à nouveau, la population n'avait pas la notion de ce qui se déroulait à l'époque.
Non, bien sûr, parce que pendant toute la durée de la guerre, il y a la censure. Mmh. Alors, très vite, très très forte.
La presse est muselée.
La presse est complètement censurée en Suisse. Mmh. Il fallait soumettre tous les articles. Donc voilà, et après, il n'y a eu pas cette volonté d'aller fouiller, parce que très très vite, c'est tourné en guerre froide, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé un nouvel ennemi, alors que les Russes, on aurait dû, entre guillemets, les remercier de l'avoir débarrassé du nazisme, parce que sinon, les Suisses tout seuls, ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser.
Et Frédéric Gonzette, il y a une très belle scène où on la voit au Salon du Livre. Actuellement, se déroule le Salon du Livre à Genève, où elle dédicace son dernier livre. Et il y a une grande simplicité, une grande modestie qu'on ressent à l'égard des lecteurs qui sont totalement en admiration de la rencontrer. Pourtant, elle a eu de nombreux prix littéraires.
Et c'est quelqu'un qui est resté absolument d'une franchise. Oui, directe. C'est pas un être qui dissimulait, qui avait des ambitions démesurées non plus. D'ailleurs, pendant une partie de sa vie, elle le raconte. Elle avait même renoncé à écrire. Quoi. Elle travaillait, elle élevait son enfant, elle était la femme de son mari. Puis, c'est quand même, elle a dû se trouver une motivation intérieure pour quand même se dire j'ai le droit d'écrire. Mais ça, c'est toute son histoire, évidemment. C'est cette situation des femmes qui. Aujourd'hui, heureusement, c'est différent, quoi, parce qu'on se dit, est-ce qu'elle a le droit ou pas? Il y a encore des différences, on est d'accord, c'est pas correct, mais à l'époque, c'était vraiment dans la racine qu'on disait aux gens, qu'est-ce que tu fais là? Et elle était aidée aussi par sa mère, qui venait la soutenir, s'occuper de son enfant, elle dit, allez, va travailler, parce qu'elle, elle n'avait pas osé, elle n'avait pas pu. Donc il y avait une espèce de...
D'effet miroir.
Oui, et de solidarité de génération, comme ça.
Alors précisons qu'elle est née en 1920. Et à l'époque, ce n'était pas un acquis de pouvoir faire des études. Elle aurait souhaité faire des études, mais elle s'est contentée d'un diplôme de secrétaire, ce qui lui a quand même permis d'accéder déjà, d'un point de vue peut-être plus rudimentaire, à l'écriture.
Ah, elle avait commencé avant. Elle commence très jeune.
Oui, très jeune.
Et puis, évidemment, elle s'est tapée à la machine très vite. Ça l'a rendu service. Mais, et puis, pendant la guerre, elle travaille... C'est vrai, elle tape sur la machine la journée, puis le soir, elle tape aussi sur la machine pour écrire ses premiers romans.
Et peu à peu, elle s'impose avec sa plume. Il y a aussi un chapitre très important, c'est son travail à la Comédie, où elle fait les dossiers de presse.
Elle travaille avec Benoît Besson, et ça, c'est aussi... Là, vous voyez, on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, donc cette espèce de liaison avec le côté allemand de l'histoire, le point de vue allemand sur l'histoire, c'est très important. C'est aussi un Suisse qui s'intéresse très fortement à l'Allemagne. Et donc, ils ont partagé ça. Et effectivement, ça l'a beaucoup plu de travailler à la Comédie comme dramaturge.
Et par rapport à toutes ces archives qui semblent vraiment abondantes, vous avez dû faire un travail en amont très important de sélection. Comment vous avez procédé? Est-ce qu'il y avait peut-être des fils conducteurs qui vous permettaient de... Ça doit être assez difficile, vu la quantité déjà de photos, d'interviews.
Moi, j'ai vécu des situations face à des films documentaires historiques très différentes, très diverses. Des situations où il y a trop de photos, d'autres où il n'y a pas assez. Je peux, en tant que cinéaste, dire je préfère quand il y en a trop. Donc là, c'est un foisonnement... Ce qui était surtout amusant, intéressant, c'était de se dire, ouais, mais cette photo, elle dit quoi? Parce qu'il y avait des trucs tout à fait surprenants, difficiles à expliquer. Telle attitude et tout, qu'est-ce que ça signifie? Donc, aller faire l'enquête pour essayer de comprendre, ça m'a beaucoup aidé dans certains cas. Ça m'intéressait de le faire et ça m'a permis. Puis après, on s'est rendu compte que c'était tout à fait plausible, que c'était corporé dans tel passage d'un livre. Donc après, j'ai retrouvé ces deux choses. Donc j'ai mis sur les images le commentaire qui correspondait dans le... Enfin, j'ai rétabli une correspondance entre le livre et la photo que certainement, elle-même, elle a dû écrire des passages en se souvenant de la photo qui était restée dans l'album et qu'elle n'avait pas été reconsultée.
Et puis, vous pouvez nous parler du choix de la comédienne qui lit les textes, la voix off.
Séverine Bujard, magnifiquement, elle lit ses textes point de vue de l'auteur, comme si c'était elle qui les avait écrits. Elle les lit extrêmement bien avec sa magnifique voix. Elle comprend tellement bien. On se dit c'est la voix. Mais on entend aussi la vraie voix de Lily Bates dans le film. Donc il n'y a pas, du tout de confusion. Mais il y a, émotionnellement, on se rend compte que c'est une identification totale. Et puis aussi la voix de Michel Voïta, qui raconte plutôt, de mon point de vue, la relation qu'on avait avec elle, est-ce qu'on, justement, qui fait le travail d'enquête.
Et par rapport à ses proches, on entend de temps en temps sa fille, on entend le petit-fils, surtout vers la fin. C'est très différent, hein, le souvenir qu'ils ont de cette personnalité si multiple, à multiples facettes.
En tant qu'enfant d'un écrivain ou d'une écrivaine, ou petit enfant, l'enfant, le tout petit enfant, il n'a aucune idée de ce que c'est que ce métier. Hein. Ça n'a vraiment pas de sens. Pour la fille, je pense que c'était vraiment une fierté d'avoir une mère qui d'abord, et je pense qu'elle nous le dit assez bien, Nathalie, c'était plus important pour elle que sa mère travaille à la radio, qu'on entende sa voix à la radio, que les livres publiés. Surtout que pendant la période de son enfance et son éducation, Yvette a plutôt cessé de publier de nouveaux livres. Donc, voilà, comme enfant, on se dit, oui, c'est des vieilles choses qui sont dans la bibliothèque. Tandis que parler à la radio chaque semaine, ça, c'est quelque chose. Et ça vous impose aussi par rapport aux autres enfants.
Des chroniques littéraires, et sur plus de 30 ans, il me semble. Ça.
Oui, certainement. Oui. Depuis les années 50, au début des années 50, jusqu'au milieu des années 80, oui.
Donc là aussi, elle appartient à toute une génération de femmes qui ont eu une visibilité. Il n'y avait pas encore certains acquis comme le droit de vote, mais il y avait déjà une visibilité des femmes presque à parité avec les hommes.
Oui, c'est le noyau dur de la radio qui a autour de le Burg et d'autres encore. Il y en a une qui témoigne dans le film, c'est Mousse Boulanger, la poétesse. Pour elle, c'était vraiment... on a acquis une petite conquête, quoi, d'arriver à féminiser la voix de la radio. Ça, c'est la Suisse romande qui a vraiment été pionnière. Et les cantons de Vaud et de Genève, on peut dire.
Alors, Frédéric Gonzette, par rapport... c'est peut-être douloureux comme question, vous me dites si vous ne voulez pas répondre, mais votre film, il était aux Journées cinématographiques de Solaire en 2017. Pourquoi sort-il que maintenant?
Il n'y a rien de douloureux à ça, c'est le marché qui est extrêmement occupé. En plus, moi, j'avais deux autres films qui étaient déjà préparés pour sortir, donc je ne pouvais pas mettre plus. Je pouvais pas. Il y a une collision, enfin. Mais enfin, en plus, il y a un problème de marché. Il y a beaucoup de films de toutes sortes qui se présentent, qui sonnent à la porte. Et puis, il faut attendre, faire la queue.
Alors, à propos d'attente, ce soir, il y a l'avant-première ici au cinéma d'Escala à Genève. Vous enchaînez aussi les avant-premières. J'ai vu La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Lausanne, Vevey.
Vous pouvez nous en dire plus?
Plus quoi? Qu'il y ait encore d'autres?
Oui, peut-être.
Il y a B, il y a Fribourg, je ne sais pas si on l'a dit. Et c'est toujours un plaisir d'aller présenter le film. Moi, j'aime beaucoup ça.
D'échanger avec le public.
Oui, parce que c'est quand même... C'est aussi notre public qui finance les films. Les gens ne se rendent pas compte, mais finalement, il faut aussi les financer à travers... les subventions des cantons et des communes, surtout des cantons, on a, et de la télévision et de la Confédération, c'est quand même le public qui finance ces films. Souvent, les gens ne savent pas. Attends, de façon de les remercier.
Donc, vous êtes dans une sorte d'émulation ce soir pour les rencontrer et échanger avec eux?
Bien sûr, je suis là. Il y a ma fille Nathalie Brunel, ma compagne aussi, qui a fait la musique du film, Catherine Hazan, mais qui n'a pas fait seulement la musique du film, qui était l'amie aussi de Yvette Stragon et qui a fait l'entretien avec elle. Donc c'est dans face caméra, bien sûr, mais c'est aussi un entretien de femme à femme. Moi, je suis là.
Ouais. Frédéric Gonzette, vous avez aussi un rôle important par rapport à la situation actuelle des médias. Vous pouvez nous dire quel est votre constat par rapport à ce qui se passe? On a eu, bien sûr, l'Hebdo, on a eu un convoi très important de journalistes, entre autres congédiés au Temps, des gens qui étaient quasiment des étoiles dans le firmament de la critique, qui se sont retrouvés du jour au lendemain remerciés.
Au Temps, à l'Hebdo... Mmh. La situation est très grave au niveau de la presse. Elle a failli l'être au niveau de l'audiovisuel. On a évité. Heureusement, la population a compris. Mais
difficilement, quand même.
on peut pas dire que non, le résultat finalement il est clair, il est tellement clair qu'en 2 mois, ça, il a fallu que tout le peuple suisse fasse un rattrapage énorme sur toute la question des médias en 2-3 mois. Mmh. Je trouve pas que le résultat est très encourageant. Alors, il y a eu le débat sur l'audiovisuel, maintenant il devrait y avoir un débat sur la presse écrite ou l'autre type de presse. Et puis c'est beaucoup plus difficile parce que les éditeurs sont pas clairs. Ils disent que c'est à leur domaine, c'est à eux de s'occuper de
quant aux priorités.
Voilà. Et puis nous, on vient, les créateurs, les journalistes, tout ça, on se met ensemble, puis on leur dit, écoutez, là, vous êtes en train de lâcher le secteur, vous n'assurez plus la qualité avec votre politique. Mm. Bon, comme vous n'assurez plus la qualité, on vous pousse un peu dehors en disant, mettons un peu le rôle de l'État, de la collectivité plutôt dans le financement de ces organes, ça va peut-être leur permettre de survivre. Voilà. Et puis c'est un débat difficile parce que les éditeurs privés ne veulent pas du tout entendre ce discours-là. Ils veulent rester maîtres chez eux, quitte à fermer la porte et jeter la clé.
Voilà, donc les intérêts ne sont plus forcément intellectuels, ouais, littéraires, ils sont juste commerciaux. Le profit.
Voilà. C'est triste à dire, c'est que la politique de la presse va être orientée maintenant sur une notion de rendement. Alors, bien sûr, personne ne veut perdre de l'argent, personne ne veut faire des dettes monstrueuses. Mais si le secteur doit faire des pertes parce qu'il n'y a pas d'autre système, eh bien, il faut que c'est à la collectivité de s'en mêler. Parce qu'on estime qu'elle est importante, la presse, pour la démocratie, pour la vie aussi. Pas seulement la démocratie au sens politique, aussi pour les rapports humains entre les gens.
Et le droit d'expression.
Oui, la liberté, tout ça. Mmh. C'est important. Donc, voilà. S'ils veulent plus ou peuvent plus l'assumer, on veut bien essayer de. Mais là, il y a un vrai débat.
Et puis, vous avez parcouru plusieurs pays à travers le monde. Vous avez pu constater que quand il n'y a plus de liberté d'expression, l'être humain est totalement altéré dans son identité, dans son intégrité.
Je pense que là, les pays, j'en ai connu quand même quelques-uns où j'ai tourné et tout, j'ai pu voir ce que ça représente, le fait de pas. Les gens ne s'imaginent pas. On croit que c'est quelque chose d'immatériel et puis que, dont on n'a pas vraiment besoin de la liberté. Mais si vous voulez, moi je te prends un exemple très trivial, acheter une voiture d'occasion dans un pays où il n'y a pas la liberté de la presse, me dit qu'est-ce qu'il raconte, le bonhomme, il parle de voiture d'occasion. Oui, je pense que c'est un important. Parce que s'il y a une filière qui refile des voitures d'occasion trafiquées, mal fichues et tout, si vous n'avez pas les moyens, à un moment donné, que quelqu'un
les dénonce,
un journaliste fasse une enquête sur cette filière, la filière va s'en faire. Puis quand les autres garagistes qui faisaient leur boulot honnête voient que tout le marché leur échappe parce qu'ils sont trop chers, parce que les autres
fichent, la corruption.
Ben, tout le monde finit par avoir des très mauvaises voitures d'occasion sur le marché. Vous voyez en quoi la liberté de la presse est très importante aussi. Alors je ne parle pas de tous les autres aspects de la vie quotidienne, où les relations entre individus, c'est encore plus important.
Et même en Europe, on a vu récemment ce qui s'est passé à Malte.
Alors ça, c'est un pays où il n'y a plus de liberté de la presse, là, on peut dire.
Et beaucoup de corruption.
Je ne sais pas dire.
Et par rapport à vos projets, est-ce qu'on peut dire, si vous êtes déjà... Vous parliez d'un film, là, que vous venez de faire. Vous êtes déjà à l'écriture pour un autre projet?
Alors, on est forcément toujours en train de préparer un projet suivant. Là, c'est un film sur un expert de la voix qui est en train de développer des compétences au niveau mondial et qui est en train de faire en sorte qu'on aborde la voix de manière complètement différente. C'est un sujet tout à fait passionnant, mais très différent.
Et est-ce que c'est lié à la numérisation et tout ce qui se passe?
Non, pas du tout. Non, c'est une question de la voix chantée, la voix parlée. On en a quand même toujours besoin. Qu'on la numérise après pour la transmettre, c'est une autre histoire.
Frédéric Gonzette, on rappelle que vous êtes au cinéma d'Escala ce soir, le 26 avril. Il y a 4 jours, vous avez fêté votre anniversaire. Bon anniversaire.
Merci.
Et là, on entend déjà le brouhaha. J'imagine que le public est déjà au rendez-vous pour l'avant-première d'Yvette Sgraggen, une femme au volant de sa vie.
Merci. Encore.
Et on rappelle qu'il y aura d'autres avant-premières. Merci à vous.
Merci.
Et bon succès. Bonsoir. En tout cas, c'était un film qui était une belle surprise pour moi, avec tous ces documents qui sont d'une forte richesse. Donc, merci pour cette belle découverte, parce que je connaissais l'écrivaine, mais pas forcément tous les détails de sa vie.
D'accord. Merci à vous.
Merci Frédéric Gonzette. Bon succès.
Bonsoir.